4 juillet 2016, le conseil de ville de Magog s'est réuni. Nous avons pour nous en parler la mairesse Vicky Meham. Alors, Madame Ham, on va éventuellement parler de cette décision que le conseil a prise d'accepter la recommandation du comité municipal jeunesse et d'en faire un comité permanent maintenant. C'est une première là, pour la ville de Magog, c'est intéressant. Il y a aussi ce dont on a parlé le mois dernier, le quart du Golfe Venise qui veut être transformé en camping. L'entrevue qu'on a fait le mois dernier a eu un impact assez significatif pour qu'on obtienne la tenue d'un registre. Mais on va ouvrir cette entrevue avec quelque chose d'autre qui risque de faire des vagues éventuellement. Et on parle ici de zones inondables. Parce que vous avez déterminé des nouvelles zones inondables qui entourent la rivière aux Cerises, les ruisseaux Custeau et Rouge. Et là, éventuellement, ça veut dire qu'il y a des terrains qui deviendront en fait non constructibles. Les promoteurs doivent attendre ça avec une certaine nervosité, là.
Oui, bien, on a fait une première rencontre avec les propriétaires visés parce que, dans le fond, c'est trois cours d'eau qui sont ciblés, qui n'étaient pas caractérisés, donc qui n'étaient pas identifiés, les zones inondables. Et là, on est venu identifier des zones inondables. Il y a deux ruisseaux, d'ailleurs, qui sont sortis de leur lit lors des inondations, puis il y en a là-dedans qui sont potentiels d'embâcle aussi. Fait que c'est des ruisseaux qu'on surveille, mais ils n'étaient pas caractérisés. Bref, pour faire une longue histoire courte, on a convoqué les citoyens, on leur a expliqué que maintenant, ils pourraient être dans une zone inondable. Maintenant, la prochaine étape, c'est de décider comment on va réglementer ça, jusqu'où on va aller dans l'interdiction ou l'obligation d'être immunisé.
Et ça veut dire donc pour les résidents qui sont déjà sur place, ben, peut-être des changements au niveau de leur police d'assurance, quoique, comme vous me le disiez en pré-entrevue, c'est assez rare aujourd'hui qu'on est assuré pour les inondations. En général, les compagnies ne veulent rien savoir de ça. Mais c'est surtout là pour les promoteurs que ça risque de changer quelque chose, parce que si un terrain se voit interdit de construction, le terrain perd toute valeur, là.
Oui, en fait, il n'y a pas de grands promoteurs dans ce coin-là qui ont plusieurs lots, c'est des individus, mais si tu n'es pas construit, puis demain matin, tu tombes dans... Là, on n'a pas encore délimité ce qu'on appelle la zone 0-20 ans puis la 20-100 ans. Mais pour donner un exemple, si tu n'es pas construit puis tu es dans le 0-20 ans, ça se pourrait que tu ne puisses plus construire. Donc, il y a peut-être une perte de valeur au niveau de ton terrain.
Qu'est-ce que ça veut dire 0-20 ans pour les gens qui nous écoutent là, et qui ne savent pas? Là, quand vous dites 0-20 ans, ça veut dire quoi?
En fait, c'est des zones de récurrence d'inondation. Donc, c'est calculé tant de fois à 0-20 ans, puis la récurrence 20-100 ans, c'est que tu es inondé pas mal moins souvent. Puis la pluie diluvienne qu'on a eue en 2013-2014, je ne me rappelle plus, septembre en tout cas, ça c'était une 125-150 ans à peu près. Donc, ça donne une idée.
Et au niveau là, des ruisseaux Custeau et Rouge, ça, est-ce qu'on sait déjà, là? Parce que, évidemment, dans ma tête, à moi, là, un ruisseau, c'est comme une rigole. C'est pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup d'eau qui te coule là-dedans. J'ai de la misère à imaginer que ça puisse devenir assez important pour même empêcher toute construction, là, comme débordement régulier.
Non, c'est des bons cours d'eau, là. C'est pas des petits... c'est des bons cours d'eau avec un débit constant. Puis au printemps, on les surveille beaucoup. Surtout le ruisseau Rouge, on surveille beaucoup. Puis comme je vous expliquais en pré-entrevue, peut-être que la personne qui se retrouve dans une zone potentielle d'inondation puis à qui on va donner des restrictions, elle va nous dire, ben oui, mais moi, je suis capable d'immuniser. Mais le fait que si on permet à cette personne-là de construire, l'écoulement naturel des eaux se fait pas puis ça inonde le gars ou la fille qui est en bas. Alors, on a une responsabilité comme ville de planifier notre développement puis d'éviter ce genre de problème-là à l'avenir. C'est notre responsabilité, sinon on va être poursuivi. Fait que c'est un peu un servicieux. On essaie de trouver la meilleure solution.
Pour ceux qui ont des terrains présentement sur lesquels il n'y a rien de construit, là, on sait que la démarche est en cours, mais ce n'est pas encore adopté. Est-ce qu'on a le temps de réagir ou s'il y a un moratoire sur toute construction tant et aussi longtemps qu'on n'en est pas arrivé à déterminer là, ce qui va arriver avec le 0-20 ans ou le 20-100 ans? Là?
Il n'y a pas de moratoire et oui, ils ont le temps d'agir. On les a convoqués puis on les a informés avant l'adoption du règlement. Donc, on a convoqué tous les citoyens concernés. Il y a eu au-dessus de 50 citoyens qui sont venus. On leur a expliqué les zones inondables. Là, cette semaine, on a donné l'avis de motion. Le règlement n'est pas adopté encore. Donc, on peut apporter toutes sortes de modifications dépendant puis on va essayer de s'inspirer là, des meilleures pratiques dans les autres municipalités.
Mais c'est pas le temps d'aller se construire. Moi, ce que je voulais dire, là, c'est que celui qui n'est pas construit encore, là, c'est pas le temps d'aller se construire à 15 pieds du ruisseau, là.
Pas une bonne idée, mais en même temps, je pense pas qu'on pourrait l'empêcher parce qu'il n'y a pas de moratoire.
C'est bien. On va passer maintenant à un autre sujet, celui du Golfe Venise. Et un acheteur, je rappelle rapidement pour les auditeurs, donc un acheteur potentiel pour le Golfe Venise demande à pouvoir transformer un des 9 trous du Golfe en camping, camping pour motoriser. Et évidemment, ce qu'on pressentait, ce que moi je pressentais déjà il y a un mois, c'est que les gens qui vivent dans cette région-là ont peur de voir des fifth wheel, comme on appelle, passer à tour de bras tout l'été, ce qui amènerait un trafic passablement plus lourd que ce qui existe actuellement avec le golf, là.
Oui, bien, il y a deux niveaux d'inquiétude. Impact sur la circulation. À date, les études tendent à démontrer que il n'y aura pas plus de circulation. Puis après ça, il y a toute la question, comme vous dites, là, il y en a qui pensent que c'est un camping, on rentre puis on sort, alors que c'est saisonnier. Ça, c'est quasiment des chalets, là, tu sais. Les gens vont être là pour l'été. Mais il y a une zone qui nous ont dit, qui était inquiet, ils ont demandé la tenue d'un registre. Donc, on a annoncé hier qu'il y aurait tenue de registre, probablement la deuxième semaine d'août.
Alors, pour rappeler aux gens, un registre, ça implique évidemment que des gens doivent se déplacer pour aller signer une demande qui éventuellement pourrait mener à un référendum, là. Combien de signatures on a besoin pour cette zone-là particulièrement? Et c'est quelle zone, là, pour que les auditeurs sachent s'ils en font partie ou non?
Je me rappelle pas de la zone, mais c'est une des plus grandes zones qui est touchée par le secteur très, très résidentiel, là, à proximité du club de golf. Là, je me rappelle pas le numéro de la zone, mais ils vont se reconnaître, là, parce qu'ils ont été quand même une quarantaine à signer pour demander un registre. Ça va prendre 64 signatures pour demander un référendum.
Et quand on dit 64 signatures, c'est 64 signatures avec des adresses différentes, ou si papa et maman d'une même famille comptent pour deux signatures?
Papa et maman comptent pour deux signatures parce que ce sont des électeurs.
Donc, ça marche en termes d'électeurs et non pas d'adresses. Voyons voir. Si éventuellement on arrive aux 64 signatures, est-ce qu'on va vraiment en référendum, ce qui en général coûte des sous? Les municipalités sont plutôt froides à l'idée de faire des référendums, là.
Très rare qu'on va en référendum. Souvent, on va revoir le projet.
Parfait. Donc, évidemment, on peut penser que l'acheteur potentiel, en tout cas, peut commencer à être frileux, là, avec tout ça, là.
Il y a toute une campagne de charme à faire s'il veut vendre son projet.
Recommandation du comité municipal jeunesse. Vous avez depuis 3 ans ici à Magog un comité municipal jeunesse qui est à renouveler, qui était en partie financé par la CRE, donc la Conférence régionale des élus, qui n'existe plus, comme tout le monde le sait. Et voilà que le comité recommande de devenir permanent et le conseil donne son aval à ça. Une décision intéressante parce que non seulement on donne l'aval au comité comme tel, mais on va lui donner aussi des nouvelles fonctions, là.
Oui, exactement. Et c'est quelque chose que je souhaitais depuis ma première élection en 2009, c'est-à-dire d'avoir un comité jeunesse qui est un peu la voix des jeunes. Donc, quand on organise des événements municipaux, la Fête des Neiges ou autre, on puisse aller voir ce comité-là puis qu'ils deviennent un peu nos conseillers pour la jeunesse. Mais en plus de ça, ils vont continuer à travailler sur au moins 2 dossiers par année. On se souviendra qu'ils ont travaillé sur la réglementation par rapport au longboard, entre autres. Donc, on va leur confier 2 dossiers par année. Ils vont devenir la voix des jeunes. Et puis, on a adopté officiellement là, hier pour que ça devienne un comité permanent comme toutes les autres comités commissions de la ville de Magog.
Et on parle de combien de jeunes qui vont siéger sur le comité permanent en question?
C'est maximum 10, je crois, et on les recrute à la rentrée des classes. Et puis, il va y avoir un conseiller attitré, il va y avoir 2 étudiants de l'école de politique appliquée, puis il va y avoir quelqu'un au niveau du Carrefour de solidarité internationale qui va continuer à nous aider pour l'encadrement.
Donc, il y a quelque chose d'intéressant au niveau des partenariats que ça amène. Et je lisais aussi dans la très longue résolution autour de ce comité municipal jeunesse que la ville de Magog entame donc sa révision de la politique familiale et que ce comité-là va avoir son mot à dire là-dedans. C'est intéressant, là. C'est vraiment une façon directe de donner la parole aux jeunes dans le cadre de la refonte de cette politique-là.
Exactement. On a entamé les travaux pour Municipalité Amis des aînés, puis parallèlement à ça, on revoit notre politique familiale. Fait que là, on s'est dit, c'est le fun, on a vraiment un groupe qui va représenter les jeunes, qu'on va pouvoir consulter puis valider des choses.
Ah, la chose est intéressante. Si des jeunes nous écoutent, évidemment, à partir de septembre l'année prochaine, il y aura moyen de poser sa candidature pour faire partie du comité municipal jeunesse permanent. On n'est pas là pour la vie, mais au moins pour un an. Donc, 2 autres sujets retiennent mon attention. Ce n'était pas à l'ordre du jour comme tel, mais lors du tour de table en fin de conseil de ville hier, vous avez abordé le LICOU. Donc, ce fameux thème des chiens là, qui, un peu partout, fait jaser à travers la province. On sait que Sherbrooke a adopté une réglementation spéciale autour du LICOU. Ici, à Magog, vous avez rien ajouté à ce qui existait déjà là, pour l'instant.
Non, puis si j'ai bien lu la tribune ce matin, Sherbrooke a reculé. Mais en tout cas, c'est compliqué. Alors, nous, ce qu'on a dit hier, c'est qu'on a rappelé la réglementation qui est déjà en vigueur. Déjà, tous les chiens à l'extérieur des propriétés devraient être en laisse. Et on se rend compte qu'on n'applique pas assez cette réglementation-là. On va commencer par essayer de faire respecter la réglementation qu'on a. Puis à l'automne, on va se repencher sur toute cette problématique-là. Puis en même temps, on a annoncé hier qu'on commence les travaux pour le parc à chiens. Donc, je pense qu'on va faire beaucoup de sensibilisation. Il va y avoir un endroit où ils vont pouvoir courir. Puis on va essayer de faire appliquer davantage la réglementation. On va être plus sévère. Et puis déjà, on va régler, on pense, une partie du problème.
Est-ce qu'il y a des types de chiens qui sont défendus là, à Magog? On sait que certaines municipalités, justement, ont boycotté le pitbull ou autre. Est-ce qu'il y a un type de règlement comme ça ici?
Non, il n'y a pas de type de chiens qui sont défendus, mais le maître doit toujours avoir le contrôle de son animal. Et ça, c'est pas super bien compris. Moi, je suis allée l'autre jour au Lady of the Lake, anciennement Lady of the Lake, le Pilsen, puis en une heure, j'ai vu trois propriétaires de chiens lâcher leurs chiens lousses à la plage des Cantons, alors qu'il y a des enfants qui se baignent puis qui jouent dans le sable. Alors, si vous voulez pas qu'on devienne trop sévère, au moins respectez la réglementation. Je n'ai un toutou, moi. Il est attaché. C'est comme ça.
Un autre des sujets que vous avez abordé en tour de table, l'hébergement qu'on qualifie d'illégal et que je dirais alternatif. Je dois vous dire ici, chers auditeurs, que je suis moi-même en conflit d'intérêts. Ça arrive aux politiciens, ça arrive aussi aux journalistes. J'utilise la plateforme Airbnb, c'est bien connu. J'ai même déjà écrit dans les journaux pour défendre cette alternative-là qui, selon moi, permet entre autres aux familles de voyager d'une façon tout à fait extraordinaire parce que c'est pas vrai que quand on a 2, 3, 4 enfants, on va aller dans une auberge tranquille et puis passer ou bien non passer là, 2 semaines dans une chambre d'hôtel, c'est désagréable. Donc, pour les familles, c'est une nouvelle façon de voyager qui est très agréable. Et donc, vous ici, vous avez quand même des pressions chez vous pour, en vous disant, bien, faut réglementer, faut faire de quoi, il y a plein d'amendes à donner. Là. On a identifié pas mal.
Oui, effectivement. On a eu une première rencontre avec l'Association des propriétaires de gîtes sur le territoire au mois d'avril, avec plusieurs maires de la MRC, parce qu'on est plusieurs à être touchés, et avec les représentants du CITQ, qui sont ceux qui donnent les certifications au niveau de l'hébergement. On a fait un tour d'horizon avec eux à ce moment-là. À cette rencontre-là, on a convenu que le CITQ, suite à l'adoption de la nouvelle réglementation au niveau de l'hébergement, elle a embauché des inspecteurs supplémentaires, mais leur job à eux, c'est de s'assurer qu'ils sont certifiés, qu'ils sont reconnus, sont certifiés. Bon. Ça ne règle pas le problème des usages illégaux puis des gens qui ne payent pas les taxes. Alors, ils nous relancent encore cette semaine. Fait que j'ai trouvé bon hier de faire le point là-dessus.
Est-ce qu'une municipalité pourrait envisager, en dehors de ce qui se passe ailleurs en province, mais est-ce qu'une municipalité comme Magog pourrait envisager d'intégrer ça, Airbnb, dans son offre touristique en se disant « Mais pourquoi ne pas devenir la ville Airbnb? » Il y a de quoi d'attractif quand même dans ce site-là. Oui, il faut aller chercher les taxes. Oui, peut-être un permis, je ne sais pas quoi, puisqu'il faut toujours payer pour tout, là. Mais à côté de ça, il y a quand même une nouvelle façon de voyager. Et moi, personnellement, je me suis fait dire à deux reprises par des grandes familles qui sont venues chez moi de France l'année dernière, si c'était pas de Airbnb, on serait pas venus, on serait restés en France, ça finit là, parce qu'on veut pas mettre tout notre argent dans le loyer, mais ils ont dépensé dans tout ce qui s'appelle attraction touristique, là, t'sais. Alors, ça attire un certain type de touriste qui met son argent dans le reste de la communauté, et c'est quand même intéressant d'un point de vue global, là.
En fait, ce que j'ai expliqué hier, c'est que là, l'Association des propriétaires de gîtes nous a envoyé entre 60 et 70 adresses de gens qui seraient illégales. Ils sont peut-être pas tous, mais selon eux. Puis quand on fait une recherche, on se rend compte qu'il y en a bien plus que ça. Fait que ce qu'on s'est dit, c'est qu'avant de commencer à mettre des amendes, puis envoyer un inspecteur, puis après ça, aller en cours, puis ça dure 2 ans et demi, comme celui qu'on a vécu au lac Lovering, pour finalement coûter une fortune, puis sont encore en opération, qu'on aurait une réflexion. Puis qu'on regarderait s'il n'y a pas justement des zones dans la ville où on devrait le permettre, puis le réglementer, puis des zones où on devrait l'interdire, puis pourquoi, puis comment on va intervenir. Alors, on est en train de réfléchir à ça. On a mis nos aviseurs légaux là-dessus, puis un petit comité de travail là, qui réfléchit à ça.
Bien hâte de voir les développements au niveau de la ville de Magog, en espérant que vous puissiez être des chefs de file, tiens, pour le développement de ce qui m'apparaît, moi, en tout cas, comme étant une belle opportunité du point de vue touristique pour se démarquer. Chers auditeurs, comme toujours, je vous rappelle tout d'abord qu'on était en compagnie de Vicky Méham, mairesse de Magog, et je vous invite à faire suivre cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.